RMC, 6h-7h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Voilà, 6h15, c'est RMC, le week-end des experts débute. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis très heureux de vous retrouver avec un week-end des experts, ce week-end un peu particulier, puisque demain, par exemple, nous n'aurons qu'une heure d'automobile entre 9h et 10h avec Jean-Luc Moreau. Et oui, on suivra le Grand Prix de Formule en Australie en direct et en intégralité. On sera là pour le réveil des experts, le break avec le Grand Prix, et on reviendra entre 9h et 10h pour une heure d'automobile. On parlera de la batterie dans les véhicules, qui est un outil, un accessoire essentiel. Et puis vos questions, bien sûr, au 32-16. Et en ce samedi tout à l'heure, donc, je le disais, pas de rendez-vous maison avec Christian Pessé, puisqu'on va suivre les essais qualificatifs du Grand Prix, mais on reviendra juste après pour la forme et la santé avec Christian Riquet et la vie numérique avec Raphaël Grabli. Mais dans l'immédiat, Patrick Mulan, bonjour.
Bonjour François, bonjour à tous, et puis très bienvenue au jardin, même si on se pèle un peu.
On se pèle un peu. Alors on annonce une légère accalmie, on va en parler tout à l'heure, ce sera la météo du jardinier. Enfin, pas de quoi faire des roulades, hein, quand même, hein, par terre. Tout à l'heure, on va parler de compost et de compostage, Patrick.
Oui, parce que c'est la semaine du compostage. Mais en plus, tout le monde parle de ça. Moi, je vais mettre un peu de bémol avec ça, vous verrez. Parce que le compost, c'est très, très, très bien. Mais quand c'est très, très, très bien fait. Sinon, ça peut être n'importe quoi. Oui. Et donc, faut faire attention.
Voilà, et puis j'imagine que vous nous donnerez des petits conseils. Ah, mais est-ce qu'on peut, par exemple, en ville, faire du compost sur sa petite terrasse ou son balcon?
C'est là que justement, je pense qu'on dit tout et n'importe quoi.
Eh bien voilà, on en parle tout à l'heure. On retrouvera aussi votre coup de cœur avec Paris Orchidée 2018.
Ah oui, il y a une magnifique exposition d'orchidées à la Villette.
C'est ce week-end, je crois.
Oui, c'est ce week-end, donc faut pas manquer ça. Il y avait un grand congrès international et donc du coup, il y a des producteurs un peu du monde entier qui sont venus présenter des plantes dans un assortiment, un arrangement magnifique.
Très bien. Et puis je vous rappelle que le plus important de tout ça, on est en direct, Patrick est là pour vous. Vous pouvez nous appeler au 3216 pour poser toutes vos questions. Jardin 3216, jardin@rmc.fr, ça c'est le mail. Ou bien, si vous le voulez, via Direct Studio sur votre appli, hein, sur votre smartphone, sur iPhone ou Android, vous pouvez nous laisser un message, poser une question à Patrick. N'oubliez pas de nous laisser votre numéro de téléphone, comme ça on vous rappelle dans la foulée. On va retrouver Mathis dans un instant, mais pour débuter, Patrick, c'est le conseil de l'expert. Que faire après cette vague de froid qui a traversé la France?
Oui, eh bien, c'était justement la semaine dernière et puis les semaines avant, on était vraiment dans des moments avec du gel, on a même eu de la neige dans beaucoup de régions alors que le printemps arrivait, hein, tout simplement sur le plan calendaire. Alors, que s'est-il passé? Comme les végétaux étaient en démarrage, certains ont gelé.
On a pas mal de questions. Sur ce sujet. On a eu, par exemple, cette question, j'achetais des primes verts hier et on m'a conseillé de ne pas les mettre en terre à cause du gel. Que dois-je faire?
Alors, là, maintenant, ça a dégelé un peu. Alors, peut-être pas dans toutes les régions. On va dire que le jardinage, la pratique du jardinage, en ce moment, comme les matinées sont froides, c'est mieux de laisser passer une petite matinée tranquille avec un croissant et un bon café. Ouais. Et à partir de 10-11 heures du matin, on peut commencer à jardiner. Alors, les primes verts sont des plantes tout à fait rustiques que l'on peut évidemment mettre en terre maintenant. En revanche, il faut pas, si le sol est gelé, le faire. Mais c'est plus facile quand même de conserver les primes verts dehors que dedans.
Autre question, Patrick. J'ai planté début novembre des... Oula. Et là, j'ai Elagnus.
Elagnus, oui.
Voilà. Et des Photinia, ça c'est plus facile. Ils ont perdu toutes leurs feuilles. Est-ce que c'est grave?
Alors, pas 100%, mais le problème, c'est quand même que ces deux arbustes sont persistants, normalement.
Oui.
Donc, si vous plantez un arbuste à feuillage persistant et qu'il perd toutes ses feuilles, c'est qu'il a pas trop apprécié, alors soit la manière dont vous l'avez planté, soit les conditions écologiques dans lesquelles il se trouve par rapport à la situation que vous lui avez offert. Donc ça, il va falloir être très attentif dans les semaines qui viennent pour voir si la plante bourgeonne et si elle redémarre. Alors, que fait-on? On vérifie qu'elle ne manque pas d'eau. Ça, c'est très important. Et puis, on fait rien d'autre. Faut pas mettre d'engrais, faut pas faire tout ça. Faut simplement faire en sorte que les conditions soient à peu près bonnes. Donc, si elle ne manque pas d'eau et qu'elle ne redémarre pas, là, il y a vraiment problème. C'est-à-dire se dire, bah, pourquoi est-ce qu'elle ne redémarre pas? Généralement, alors on peut d'abord rater sa plantation, hein, ça arrive quand même, mais généralement c'est un problème souvent de vent, de plantes qui se trouvent dans un courant d'air et qui se n'aiment pas du tout l'emplacement que vous lui avez dévolu. Donc dans ces cas-là, bah, vous changez.
Patrick, concernant ce qu'il faut faire là au jardin après cette vague de froid, bon, on se rend compte que c'est un petit peu le champ de bataille, hein, dans le jardin là. Il est urgent d'attendre et de voir un peu ce qui va se passer avec l'arrivée du printemps pour voir ce qui repart ou pas.
Oui, alors on va dire qu'il est urgent de pas se presser parce que le comportement de la plante une fois qu'elle a été stressée, eh bien, il est ralenti. Donc il faut qu'elle se remette, si vous voulez, un peu de ses émotions.
Il faut qu'elle se requinque, quoi.
Voilà. Donc, pour l'instant, comme les matinées, encore une fois, je insiste, sont fraîches, dans la journée, il fait quand même pas non plus une température extraordinaire, bon, sauf sur le midi méditerranéen, le printemps a du mal à démarrer. Donc, il est normal que les plantes qui ont été agressées par le gel, ben, si je peux le dire, elles font un peu la gueule, quoi.
Ouais, ouais, bien sûr.
Et donc, que va-t-il se passer? Vous allez quand même constater deux choses. Sur les plantes que l'on appelle herbacées, c'est-à-dire celles qui ont des feuilles assez tendres, ouais, etc., si elles sont toutes ramollo, si elles sont flasques comme ça, et qu'en plus elles noircissent,
aïe.
Ça c'est pas bon. Ça veut dire qu'effectivement, les tissus ont été vraiment agressés par le gel, les cellules ont éclaté, donc, et maintenant il y a une nécrose. Alors la plante n'est pas forcément fichue, mais ces parties-là, oui. Donc ça,
on coupe.
On peut couper.
D'accord.
Mais on va garder quand même le cœur, on sait jamais. Parce que c'est souvent au niveau de la souche que ça va rebourgeonner. Et donc là,
on laisse tranquille. Ça.
Combien de temps doit-on attendre? On va dire jusqu'à début mai.
D'accord.
Jusqu'au 10 mai. Environ. Si vraiment rien ne s'est passé, là on pourra commencer à avoir des doutes.
Là je suis très 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 inquiet concernant mon citronnier.
Ah bah, on peut. Alors sur justement, les plantes ligneuses, c'est-à-dire celles qui font du bois.
Tout flagada là, hein.
Alors, flagada, c'est pas bon.
Non, c'est pas bon.
Si c'est desséché, c'est pas très bon non plus, mais il peut y avoir justement des repercements. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre justement que ces petits bourgeons éventuels repointent. S'ils repointent pas, bah voilà, malheureusement, la plante, elle sera décédée. Si ça redémarre, bah à ce moment-là, vous retaillerez au-dessus de ces démarrages. Si vous constatez, pour finir, des branches vraiment mortes, on les voit mortes, eh bien, à ce moment-là, vous coupez maintenant toutes les parties abîmées. Après tout, elles sont mortes.
Voilà. Ouais. Bon, Patrick, en espérant que le printemps arrive bientôt, hein, quand même. Hein.
Oui,
là, franchement.
Oui.
Ça commence à être un peu long, tout ça.
Mais moi, je suis pas inquiet. Ouais. Je vous dis toujours.
Là, je regarde Stéphane Jobert, il fait pas sa grande mine des grands jours. Hein.
Non, mais on verra si j'ai raison. Je dis toujours que le vrai printemps des jardiniers commence autour du 10 avril.
Oui. Donc, c'est pas tout de suite encore. Hein. Bon. Patrick, on se retrouve dans un instant.
Exactement, après la météo, c'est important.
On aura Mathis qui va nous parler de son yucca.
Ah,
voilà. Et puis, si tout comme Mathis, vous voulez poser vos questions, c'est maintenant, 3216, jardin@rmc.fr ou via l'appli RMC Direct Studio. En plus, on a des cadeaux pour vous. Je vais en parler dans un instant. Mais auparavant, le cadeau du week-end, c'est Stéphane Jobert et la météo.
Je note le 10 avril pour le printemps, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
On sera pas très loin, en tout cas. il faut attendre encore un petit peu, c'est vrai.
On retrouve
du soleil aujourd'hui à l'est, principalement sur les Ardennes, le Grand Est, Rhône-Alpes et la Provence, ainsi que la Corse. Partout ailleurs, ciel couvert près de l'Atlantique, de la Bretagne au Pays Basque, des nuages que l'on retrouve aussi près des côtes de la Manche et sur l'île de France. Quelques averses dès ce matin sur la basse Normandie, les Pays de Loire, les régions du centre, le Limousin et en Midi-Pyrénées, là où le ciel restera chargé toute la journée avec une limite pluie-neige et des températures encore basses, le limite pluie-neige à 800 mètres sur les Pyrénées ainsi que sur le sud du Massif central. Les températures, donc, elles sont encore en négative dans l'Est et dans le Massif central. Partout ailleurs, entre 1 et 7 degrés. Dans l'après-midi, entre 9 et 15 degrés. Il fera 14 à Paris, jusqu'à 17 de maxi. Ce sera pour Marseille et pour Lyon.
La météo avec Capifrance. Vendre, acheter, louer. Tout l'immobilier Capifrance sur capifrance.fr.
RMC, le week-end des experts. 6h-7h, votre jardin. RMC.
J'arrive pas à démarrer la tondeuse.
Est-ce que t'as tiré 3 fois la manette rouge, Alex?
La quoi?
6h-7h, votre jardin.
Bon, attends, laisse tomber. Elle est de quelle couleur, la tondeuse?
Bah, elle est verte.
Bon, alors laisse tomber, c'est pas la tondeuse, c'est la brouette.
François Sorel, Patrick Mulan.
Nous sommes de retour, le week-end des experts de jardin. Merci d'être là, 6h27. Patrick, dans un instant, on va tout savoir sur le compost et le compostage.
Oui.
Mais auparavant, nous accueillons Mathis. Bonjour Mathis.
Bonjour messieurs, comment allez-vous?
Bonjour.
Bonjour Mathis.
Vous allez bien?
Oui, ça va. 6h27, tout va bien. Oui. On se réveille, Le petit café. J'imagine que pour vous aussi, c'est le petit café, non Mathis?
Absolument.
Eh bien,
absolument.
Voilà. Parfait.
Devant mon yucca, justement.
Ah, c'est un yucca qui va pas?
Si, en fait, moi je suis dans le 92, j'habite du côté de Levallois, je suis dans un intérieur qui est plutôt bien exposé, et en fait j'ai acheté un yucca il y a 5-6 ans maintenant dans une grande enseigne d'ameublement en kit, et alors j'ai pas du tout la main verte, je dois l'avouer, c'était plus une plante de déco, mais effectivement je l'ai prise parce qu'on m'a dit que c'était une plante qui était très résistante, qui avait pas besoin de beaucoup d'entretien. Néanmoins, j'aimerais avoir quelques conseils pour justement bien l'entretenir. Il m'arrive de faire un rempotage une fois par an, aux alentours de juillet. J'aurais vraiment quelques conseils sur l'entretien avec le printemps qui doit arriver normalement.
Pourquoi un rempotage en juillet?
Mais je sais pas, je me dis qu'il fait beau.
Oui, vous avez le temps, vous êtes en vacances, donc on fait ça.
Non,
alors, le rempotage, c'est mieux maintenant, entre nous. L'idéal du rempotage, c'est vraiment le démarrage de la végétation, donc on va dire le mois de février, le mois de mars. Après, la plante, elle est en végétation, et alors c'est vrai qu'au mois de juillet, généralement, quand il fait chaud, il y a une sorte de reprise d'une certaine dormance, mais on la réveille, on va la redynamiser avec le rempotage, et en pleine période de végétation, quand il fait notamment chaud et sec, alors même si Liuka apprécie ça, c'est pas forcément la période idéale. Bon, a priori, ça n'a pas l'air d'avoir quand même donné trop de conséquences, et c'est vrai que si je voulais simplifier à l'extrême, je dirais le Liuka, moins on s'en occupe et mieux il va, parce que souvent, on le fait plus facilement dépérir d'un excès d'arrosage que d'un manque. C'est une plante qui vit dans le sud des États-Unis, dans des zones qui sont semi-désertiques, et elle a pas besoin vraiment d'être très arrosé, parce que sinon les racines qui sont charnues.
C'est quoi alors? C'est quoi? C'est une fois tous les deux mois?
Une fois tous les deux mois. Non, par exemple en hiver, en plus là vous avez, a priori vous êtes dans un appartement, donc il doit être chauffé autour de 20 degrés. Lorsque la température est à ce niveau-là, même en hiver, on va arroser tous les 10 jours par exemple.
Après. Ah oui, mais moi j'y suis pas du tout en fait. Moi je l'arrose vraiment une fois tous les un mois et demi. En fait.
Oui, mais alors ça peut fonctionner entre guillemets. Alors la preuve, a priori, il est pas mort, sauf que vous avez pas de croissance. En fait, vous entretenez votre plante sous perfusion comme si elle était dans une espèce de torpeur permanente et elle ne se réveille pas et donc elle ne croît pas. Alors ça, c'est ce conseil-là, il est valable pour toutes les plantes que l'on appelle succulentes, donc toutes les plantes grasses, tous les cactus, que l'on ne fait évidemment pas mourir d'un manque d'eau, ou quasiment pas, parce qu'il faut quand même de temps en temps lui redonner un peu, mais qui se replient, on va dire, sur eux-mêmes, dont la végétation, le métabolisme se ralentit, un peu comme les marmottes en hiver. La plante voit son rythme s'abaisser, et elle ne fait plus rien. En revanche, si à partir de maintenant, les jours se rallongent, donc on va dire qu'à partir de fin mars, début avril, là, on va augmenter la fréquence des arrosages, pas plus d'une fois par semaine, en revanche, jamais plus d'une fois par semaine, et la plante va se retrouver donc dans une condition végétative intéressante pour elle. On peut même lui mettre, alors sur les yuccas, faut pas exagérer, mais on va dire une fois par mois, on peut lui apporter un peu d'engrais. Il y a de l'engrais pour cactus, par exemple, ça se trouve dans le commerce, de manière à ce qu'elle se développe, qu'elle pousse. Sinon, si on fait un arrosage tous les un mois et demi, elle dort et puis elle fait rien du tout.
Et donc du coup pour le rempotage.
Elle en a besoin. Alors c'est pareil, le rempotage c'est pas quelque chose de systématique, notamment sur une plante qui ne se développe pas. En général, on est tenté de rempoter lorsqu'on se rend compte que la plante est un peu à l'étroit, soit parce que elle a beaucoup poussé et il y a un déséquilibre de volume entre le pot et le volume même de la plante, ou parce qu'on se rend compte que cette plante qui poussait très bien, tout d'un coup, alors qu'on n'a pas changé les conditions, elle s'est mise à ralentir sa croissance ou même à plus pousser du tout, tout simplement parce qu'elle a plus rien à manger. Donc dans ces cas-là, on la rempote. Alors sur votre yucca, comme il a pas du tout pousser, bah on va peut-être attendre l'année prochaine, essayer de voir cette année, justement, en faisant un peu ce que je viens de dire précédemment, oui, de le faire un peu pousser, et puis le rempoter l'année prochaine.
Mathis, merci beaucoup pour votre question, et on va vous envoyer, parce qu'on aime bien offrir des cadeaux à nos auditeurs, on va vous envoyer un ballotin de chocolat, Jeff de Bruges.
Ah bah voilà, c'est sympa ça.
À partir du moment où vous passez à l'antenne ce matin, dans toutes les émissions de ce samedi matin, vous recevrez un ballotin de chocolat, Jeff de Bruges. Et puis on a un deuxième cadeau, Patrick. Alors là, je vais vous laisser en parler parce que c'est votre spécialité. On vous offre par SMS, écoutez bien, un coupe bordure à batterie équipé d'un système de coupe innovant.
Oui, alors c'est un système de un système à fil, mais qui est remplaçable très rapidement. Alors la marque, c'est Oregon. Oregon, c'est le leader mondial des chaînes et des guides chaînes de tronçonneuses. Donc c'est une marque vraiment extrêmement
sérieuse. Ils sont sérieux dans le domaine.
Voilà, et c'est intéressant d'avoir aussi un coupe bordure à batterie parce que ça vous donne une totale autonomie et vous avez donc un appareil que vous n'avez pas besoin de mettre d'essence dedans et vous n'avez pas besoin de le brancher, sauf pour recharger la batterie.
Oui.
Donc l'avantage aussi, donc, c'est que ce système de fil dure beaucoup plus longtemps qu'un système classique et donc il suffit aussi de taper la base de la tête de coupe sur le sol pour que le fil s'alimente. C'est vraiment un très très bel outil.
Parfait. Pour emporter donc ce coupe bordure Oregon, eh bien c'est très simple, il faut tenter votre chance, vous nous envoyez le mot jardin par SMS au 73216. Jardin par SMS au 73216 et vous participerez au tirage au sort. Bonne chance. Allez, on parle de compostage maintenant, de compost et de compostage.
Oui, je voulais vous dire simplement, si vous êtes intéressé par le yucca dont on vient de parler, le rempotage, on a fait nous une vidéo sur New Jardin TV qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs sur le rempotage du yucca. Donc ça veut dire que beaucoup de personnes sont intéressées par ça, donc
c'est
vous pouvez
clair.
La voir. Rempotage du yucca. Alors évidemment,
le compost,
c'est tout à fait autre chose, mais c'est particulièrement important. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que en fait, c'est hier, non, c'est même aujourd'hui d'ailleurs qu'on lance dans toute la France la semaine nationale du compostage de proximité. Donc, alors le compostage de proximité, c'est soit le compostage qu'on fait soi-même, soit dans les environnements collectifs, on peut aussi avoir des compostières et on fait en fait du compostage de déchets verts. Et donc ça va durer jusque le 8 avril. Alors, bien entendu, il y a des animations, etc. Et vous pouvez aller voir le site semaine-du-compostage.fr.
Un mot peut-être sur la réglementation.
Et oui, parce que la nouvelle loi de transition énergétique pour une croissance verte, la fameuse LTECV, puisqu'on parle que comme ça dans notre pays, prévoit en fait une généralisation du tri à la source pour les biodéchets d'ici 2025. Alors, pour quelle raison, en fait, quand on cite la loi, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles afin que ceux-ci ne soient pas éliminés mais valorisés. Et c'est vrai que le compost, c'est quoi? Tout simplement la valorisation des déchets biodégradables.
Évidemment, parce qu'on ne va pas mettre du plastique dans le compost, ça ne marche pas beaucoup.
Alors, les plastiques bio,
pourquoi pas?
On peut le faire.
Ah oui, d'accord.
Faut pas faire du compost qu'avec ça, mais ils sont justement biodégradables.
Patrick, on commence par le début peut-être. Qu'est-ce que le compost finalement?
Alors le compost, en fait, c'est le résultat d'un processus de dégradation biologique, c'est-à-dire donc c'est une fermentation, une décomposition, puis une transformation naturelle des constituants organiques de sous-produits ou de déchets, alors qu'ils soient végétaux ou animaux, on verra quand même que pour le jardin c'est mieux qu'ils soient plutôt quand même végétaux. Et attention, il faut préciser que c'est un processus qui est contrôlé, il faut de l'humidité, il faut de l'oxygène. On a l'impression qu'il suffit de, allez hop, j'ai des déchets et puis tout d'un coup, miraculeusement, je vais faire un produit génial avec ça. Ce n'est pas vrai, parce qu'il faut qu'il y ait plein de micro-organismes qui interviennent. Alors des champignons microscopiques, des bactéries, des amibes, des algues, des nématodes, les vers microscopiques, plus derrière ça des acariens, des insectes, des vers qui vont travailler à ce que les déchets se transforment. Alors ça aussi c'est important, en milieu aérobie, ça veut dire quoi? En présence d'oxygène.
Et oui.
Quand on fait de la fermentation dans un truc tout fermé où il n'y a pas d'air qui circule, on fait des produits extrêmement nocif, voire parfois même pathogène.
À quoi ça sert le compost?
Alors le compost, une fois qu'il a été bien fabriqué, qu'il est bien mûr comme on dit, et qu'on l'incorpore dans le sol, il joue trois rôles. Trois rôles très importants pour l'amélioration du sol. Il joue un rôle physique, c'est-à-dire qu'il va servir déjà à retenir l'humidité. Et ça, c'est très important, par exemple, dans les sols sableux. Les sols sableux, ils sont très filtrants. Vous mettez du compost, ça joue une sorte de rôle d'éponge naturelle. Il va jouer aussi un rôle de stabilisant et même d'aération, parce que c'est un matériau qui est assez fibreux. Ça, c'est le rôle physique. Il joue un rôle chimique. Pourquoi? Ben parce qu'il apporte de l'azote, il apporte d'autres composés, notamment des oligo-éléments, dont les plantes vont pouvoir se nourrir. Et il joue un rôle, on va dire, vivant, bactériologique, parce que là, on apporte énormément de ces micro-organismes qui, eux, jouent un rôle dans la transformation de l'humus. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important.
Quel est le secret d'un bon compost, Patrick?
Alors, le secret d'un bon compost, c'est comme dans une recette de cuisine, François. C'est la qualité des intrants, la qualité des éléments qui vont constituer ce compost. Donc, si vous mettez des choses qui sont pas de qualité, vous, par exemple, ce qu'on appelle les déchets verts urbains, là-dedans, vous avez tout et n'importe quoi et vous obtenez un compost de très mauvaise qualité. Si vous compostez que des feuilles, des branches, des épluchures de légumes qui ont été bien nettoyées, pas qui sont pas souillées, voilà, vous allez avoir quelque chose de très très bien. Donc ça, vraiment, c'est important. Et puis, bien entendu, alors ça, j'insiste là-dessus parce que personne ne le dit, mais c'est la base même. Il faut du volume. L'idée de se faire un petit cube de 20 cm de côté avec 3 verres de terre dedans pour faire du compost, c'est une ineptie totale.
Il faut combien de litres? Enfin, c'est des litres, c'est ça là? Comment ça marche?
Ça fait 1000 litres, le minimum, pour moi c'est 1 mètre cube. Si vous avez moins d'un mètre cube sur votre compost, vous avez du mal à avoir quelque chose de
qualité. Ça représente quoi, un mètre cube en termes de place? J'ai du mal.
1 mètre de côté.
Ah oui, tout simplement.
Un mètre de surface sur
un
mètre
de hauteur.
Voilà.
Mais
un cube de 1 mètre, en fait.
Comment on le réalise, ce compost, Patrick? Comment ça se passe? Et quelles sont les étapes importantes?
Alors, il faut d'abord le faire, et c'est pour ça que ça marche pas non plus en ville, il faut qu'il soit au contact du sol. Donc, vous allez commencer sur de la terre, et vous mettez un premier lit de débris grossiers. Alors, soit des brindilles, pas des branches, des brindilles, de la paille, donc quelque chose de très fibreux, d'une vingtaine de centimètres d'épaisseur, et là-dessus, vous allez mettre la même épaisseur avec des déchets. Alors, les déchets, quand ils sont souples, c'est-à-dire, par exemple, les épluchures de légumes, les feuilles, vous les mettez telles que. En revanche, et il est important qu'il y ait aussi des déchets de branches. Pourquoi? Parce que un bon compost, c'est un bon équilibre entre le carbone et l'azote. L'azote, c'est beaucoup apporté par les éléments mous, donc les tontes de gazon, les feuilles, les épluchures, etc. Et le carbone, lui, ça se retrouve dans les éléments ligneux. Mais il faut broyer avant. On met pas des grosses branches comme ça pour se dire ça va se composter. Ça va se composter, mais il faudrait des années et des années. Donc on broie. Et ça, c'est important. Plus, je vous conseille, alors ça c'est pour ça aussi qu'en ville c'est compliqué, c'est de faire intercaler tout ça avec une couche de fumier frais. Pourquoi? Ben parce que c'est là qu'il y a tous les micro-organismes qui vont pouvoir travailler. Ou alors, on va trouver des activateurs de décomposition, mais c'est rarement des micro-organismes. C'est souvent du sulfate d'ammoniac, et donc c'est un petit peu, enfin c'est chimique, mais c'est bien, hein, mais ça suffit pas. Hein. Alors attention.
Après, il faut pas être pressé.
Pas trop. Alors déjà, ce que je voulais dire, faut pas tasser. Faut tasser un peu, mais pas comme un malade. Et faut surtout arroser. Il faut qu'il y ait de l'humidité. Et après, effectivement, il faut un certain temps. Ça, c'est comme la vieille histoire de Fernand Reynaud pour le fût du canon qui refroidit. Ce certain temps, il dépend des intrants que vous avez mis. Plus c'est ligneux et plus c'est long à décomposer. On va dire qu'entre deux mois, c'est vraiment un minimum. L'idéal, c'est environ 6 mois. À 1 an. Un compost, ça se fabrique, on va dire, entre 6 mois
et 1 an.
Mais parce que c'est naturel. Il faut laisser vous imaginez, vous faites un tas de déchets et tout d'un coup, ça devient un produit extraordinaire. Il faut du temps.
Patrick, pour terminer rapidement, franchement, vous conseillez à tous ceux qui nous écoutent de faire du compost? Tout dépend de la place qu'on a, c'est ça?
Si vous êtes
le temps qu'on peut y consacrer aussi?
Bien sûr, parce qu'il y a une chose que l'on n'a pas encore dite, c'est que votre compost, au cours de ces 6 mois, faut au moins le retourner entièrement une fois. Donc si vous avez, pour l'aérer et pour le brasser, etc., si vous n'avez pas le temps de vous en occuper, si vous pensez, d'ailleurs je le vois dans les jardins familiaux, on met un silo à compost, c'est une espèce de cuve en plastique, et puis tout le monde met ses déchets là-dedans, et tout le monde me dit, ah ben c'est bizarre, mais mon compost se fait pas. Ben non, il se fait pas, parce que c'est pas comme ça. Ça demande une technicité, ça demande qu'on s'en occupe, et ça demande encore une fois un très très gros volume.
Donc, mais voilà. C'est vrai qu'après on doit avoir une certaine satisfaction à faire son propre compost.
Oui, hein, mais il faut être un bon jardinier.
Patrick, on revient dans un instant sur RMC avec la météo du jardinier, et puis votre coup de cœur de cette semaine, et peut-être vos questions si on a le temps. N'hésitez pas à nous appeler 3216. jardin@rmc.fr ou via l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-7h, votre jardin.
Patrick, petite question flash.
Oui, oui, oui.
En moins de 2 minutes, vous vous engagez à répondre à la question de Marilène. Je dois faire quelques aménagements dans le jardin et donc déplacer plusieurs rosiers dans les prochains jours. Peuvent-ils survivre?
Ah bah oui. Oui.
Oui.
Encore. Alors, les prochains jours, c'est les prochains jours. Hein. Là, c'est pas dans 2 mois. Hein. Là, on est vraiment, et du fait du climat qui nous a un peu bloqué la végétation, on a cet arrêt végétatif, ce début de démarrage qui fait que les rosiers, pour l'instant, ils sont en bourgeon. Ils sont pas en feuilles. Donc, tant que la plante n'est pas en feuilles, la transplantation est tout à fait faisable, même à racines nues, on va dire. Hein. Bon, l'idéal... On est un peu avancé en saison, c'est quand même de l'arracher avec la motte de terre et de le transplanter aussi vite que possible. Derrière ça, vous avez tout intérêt, ou même avant, à bien retailler votre rosier. Donc je rappelle, le rosier, ça se taille à 3 yeux, enfin du moins les rosiers buissons à grandes fleurs, donc ça fait une 20aine de centimètres du sol. Donc une fois que vous avez retaillé tout ce monde-là, la masse végétale, elle est plus faible et donc la plante va plus facilement reprendre. Il est préférable également de prévoir le trou de plantation avant d'avoir bien creusé, de manière à vous arracher le rosier, hop, et vous le remettez. Si vous devez le faire voyager, eh bien, l'idéal, c'est de mettre chaque rosier dans un sac poubelle avec sa motte de terre et de le noyer quasiment, de vraiment être très 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 humide. Et puis, une fois que vous l'avez remis en terre, vous faites en sorte que la plante ne manque pas d'eau, au moins pendant les 15 à 20 jours qui vont suivre cette plantation. Mettez même un petit couvert de paille, un petit paillis protecteur, parce que comme il fait froid le matin, que les racines superficielles ne soient pas agressées par le froid. Et puis, vous mettrez de l'engrais d'ici 1 ou 2 mois après la reprise, bien sûr.
32-16, hein, pour toutes vos questions, on vous attend.
RMC, c'est au 32-16, 45 centimes la minute, et au 7-32-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, jusqu'à 7h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Voilà, 6h46, c'était RMC, le week-end des experts, le jardin. Patrick, on accueille Rémi tout de suite au 32-16. Bonjour, oui. Rémi.
Bonjour.
Bonjour,
voilà,
Rémi.
Voilà, je vais m'arrêter, et hop.
Ah oui, il faut vous arrêter, vous êtes en voiture, Rémi.
Ça y est. C'est fait, je suis porteur de presse.
Ah d'accord, on vous écoute, oui, Rémi, allez-y, posez votre question.
Voilà, moi je vous ai appelé surtout pour mon abricotier. L'année dernière, il en a donné tellement. Et cette fois-ci, je me suis rendu compte que les sapinettes grandissaient de trop. Et je l'ai déplacé, il y a 8 mois de ça, hein, je l'ai déplacé, je l'ai mis en plein soleil. Alors, quelques temps après, il a fait énormément de fleurs blanches. L'arbre, il était magnifique.
Ouais.
Et il y a eu les coups de gelée, là, pendant quelques temps, là, je ne sais pas, 3 ou 4 jours. Et toutes les fleurs, elles sont devenues marron et elles sont tombées.
Ben oui.
Alors, et le bout des branches est devenu un peu grillé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé le bout pour savoir.
Ben oui.
Et d'un coup, je me suis rendu compte, le bout, il était d'accord marron, mais après, c'était vert.
Eh ben oui, tout va...
La branche, à l'intérieur, elle était verte. Une fois, je me rappelle, parce que je vous écoute régulièrement quand je mets ma presse, et vous avez dit que quand la branche à l'intérieur, elle est encore verte, c'est qu'elle a une chance.
Bien sûr. Non, mais là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un coup de gel au moment où la plante était en végétation et a fortiori, elle était en fleurs. Donc là, la gelée vous a ratatiné les fleurs. Vous n'aurez pas ou quasiment pas d'abricots cette année. Ça, faut pas rêver. Et l'extrémité très tendre des rameaux les plus jeunes a grillé. Bon, vous avez fait exactement ce qu'il fallait. C'est-à-dire vous avez coupé les parties qui étaient abîmées. Maintenant, la plante, elle va redémarrer.
Donc, pas d'abricot cette année?
Ah oui, pas d'abricot cette année.
Ça sera l'année prochaine.
Voilà, il faut attendre l'année prochaine.
Patrick, allez, avant de retrouver la météo, les infos en avance et les essais qualificatifs du Grand Prix de Formule 1 en Australie avec Jean-Luc Roy et toute la Dream Team F1. Avant tout cela, la météo du jardinier quand même. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre cette semaine, Patrick ?
Alors, des précautions, pas particulièrement, mais on va pas pouvoir jardiner.
On est au printemps depuis quelques jours.
Et ce qui est embêtant, c'est qu'on va pas pouvoir jardiner vraiment beaucoup dans la mesure où on va avoir toujours des matinées fraîches. Alors c'est pas trop ça qui gêne, mais surtout on va avoir pas mal d'eau dans la plupart des régions. Donc en fait, on peut jardiner entre les gouttes si on veut. Bon, les plantations de printemps, le nettoyage, etc. Mais les conditions vont pas être extrêmement géniales. Ça va pas être très agréable, si vous voulez. De toute façon, l'indice de confiance de Météo France n'était pas non plus fabuleux, puisqu'à partir de jeudi, il était qu'à 2. Donc on peut pas savoir exactement à quel niveau on se trouvait au niveau de la certitude, mais quand on regarde globalement, on va dire que le temps qu'on a aujourd'hui et demain, c'est à peu près la même chose pendant toute la semaine. Donc on aura guère.
On a l'impression que c'est une légère amélioration quand même, non ?
Oui, mais vous savez, un 7-11 degrés au mieux dans la journée, dans la moitié nord.
Encore cette semaine, on a eu des températures qui étaient plus basses. Hein.
Mais attendez, je vous dis au mieux.
Ah oui.
Donc ça veut dire que le matin, vous avez entre 1 et 5, c'est quand même
c'est pas la fiesta,
beaucoup.
Oui.
Pas beaucoup. Donc laissez quand même des abris, des tunnels sur les plantes qui sont fragiles, notamment au potager, et ne vous pressez pas particulièrement pour faire les semis. Attendez encore un peu.
Et on attend le 10 avril, Patrick, hein. Ça sera votre printemps à vous.
C'est ce que je crois.
C'est ce que vous croyez.
Non, en général, c'est ça.
On termine rapidement par votre coup de cœur de cette semaine.
Bah écoutez, il y a une magnifique exposition d'orchidées là à la Villette. Il faut en profiter si vous êtes parisien ou si vous êtes dans la région, parce que c'est exceptionnel. C'est une exposition internationale. Ça n'a pas eu lieu en France depuis des années et des années. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de très, 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 très belles plantes. On peut aussi en acheter parce qu'il y a des producteurs du monde entier. Donc n'hésitez pas, il faut aller voir cette expo.
C'est ce week-end donc, hein ?
Ah oui, ça s'arrête à la fin du week-end.
Top ! Patrick, on se retrouve la semaine prochaine.
Eh bien, nous ferons encore du jardinage. J'espère que le temps sera meilleur. Les jardinières, je vous embrasse. Ma petite jardinière, comme d'habitude, et je vous laisse au volant de la F1.
Direction l'Australie dans un instant avec Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc.
Eh ben salut François.
Les
salut
essais
Patrick.
Qualificatifs
bon, il pleut
de
dans les Yvelines, je confirme. Il pleut, il fait mauvais. Voilà. C'est la fête à la grenouille, mais c'est pas la fête des motards, je peux vous dire.
En Australie, qu'est-ce que ça donne ? Ça doit être un peu plus clément, non ?
Alors oui, paradoxalement, pour la séance d'essais libres, la troisième, il pleuvait dans la première partie, ça a séché sur la fin. On attendait d'ailleurs peut-être de la pluie pour le qualif. Apparemment, il n'y en aura pas, de près de notre grenouille australienne.
Week-end de F1, ça y est, on célèbre la F1 sur RMC. C'est reparti pour une saison qui s'annonce encore une fois exceptionnelle. Et demain, le Grand Prix, bien sûr.
Oui.
À partir de 7h et jusqu'à 9h.
À 7h, absolument. Alors ça, c'est toujours, effectivement, le premier obstacle que les écuries attendent, parce qu'il y a eu des essais hivernaux, tu le sais bien, mais qui ont été, justement, réfrigérants, c'est le moins qu'on puisse dire, la première semaine, qui ont donné des indications, mais pas précises. Donc on attend déjà la séance qualif, maintenant, en direct sur RMC, et puis surtout demain, pour savoir à quoi on aura affaire.
Voilà, c'est dans quelques instants. Moi, j'aurai le plaisir de revenir tout à l'heure vers 8h, pour la forme et la santé avec Christian Aquin, juste après ces essais. À tout de suite.